Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades. Et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Cet évangile, Seigneur, efface nos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
C'est, vous savez, pour notre, c'est le pape Jean-Paul II qui a proclamé saint Cyril et saint Méthode, le patron de l'Europe. Saint Benoît est déjà patron de l'Europe, mais alors il y a les patrons de l'Europe chrétienne, j'allais dire, du Moyen-Âge, c'est Saint Benoît, et puis patron de l'Europe. Comme disait le général de Gaulle, je ne sais pas où jusqu'à vous, l'Atlantique à l'Europe. C'est l'Europe élargie. Comme le général de Gaulle était passé par là. Et bien, du coup, Jean-Paul II a dû mettre un nouveau patronage. Effectivement, Saint-Cyril et Saint-Méthode, vous savez, ce sont des deux frères. Ils sont partis de Rome, et ils sont allés dans des pays comme, je ne sais plus si c'est dans le coin, maintenant c'est tellement bouleversé, des frontières qui se déplacent, 200 km en Pologne, on ne sait plus si c'était dans l'actuelle Ukraine, dans l'actuelle, je ne sais pas, Pologne, enfin bref, c'est dans ces coins-là. Et ils ont carrément, ces peuples ne sachant pas lire, ne sachant pas écrire, ils ont carrément inventé l'alphabet slave, l'écriture slave. Et aujourd'hui encore, quand on chante les liturgies en slavon, c'est les langues qui avaient été, c'est-à-dire, pas fabriquées, c'est pas ça, mais enfin mises en place avec leurs règles grammaticales par Saint-Cyril et Saint-Méthode. Et il a suffi de faire cela. C'était un travail énorme, ça demandait un travail. C'est vrai, quelquefois, la sainteté passe par des. Ils se sont soumis à un travail énorme, un travail de calligraphie, de recherche. Il fallait une exactitude, une intelligence pour faire ça, pour que ce soit solide, stable, que ça corresponde à la mentalité aussi. Enfin, donc ça demandait une finesse, une intelligence, une. Et puis en même temps, c'était pas leur pays, enfin, donc ça demandait une attention extraordinaire. Mais en même temps, c'est très simple, c'était un travail, quoi, un vrai travail. Et c'est sur cette base, après, quand on chante, par exemple, encore aujourd'hui, on s'en sert. parce qu'on a fait notre premier pèlerinage, on chantait à Rome, au Sénat, au Chine, au Lézard, au Sénat, au Polo, on chantait de notre père, c'est à fond, tout ça. En disant cela, à ses pieds, vous vous posez. Dès qu'on chante, en slavon, tout de suite, c'est normal. Il y a quelque chose de. C'est pas la même chose que quand on se trouve dans un monastère, comme à Sobène, par exemple, et puis que les moines sont tous le grégorien. Ça donne une impression aussi, cela. C'est un peu noir à côté. C'est un cirque, c'est un métal, c'est l'autre. C'est différent. C'est là, c'est beaucoup plus. C'est là, bon. L'impression, c'est quelque chose de savant. Quand on est dans une liturgie, on a l'impression vraiment d'être dans une espèce de bulldozer très légère en même temps. C'est ça. Je me rappelle quand j'étais à Paris, j'avais toujours. Tous les dimanches, j'allais le matin, c'était tôt, c'est pour ça. Alors, il commence la messe comme ça. Pendant une heure et demie avant la messe, on chante, on se lave, on les psaumes. Et tous, les laïcs, les enfants, les machins, c'est comme ça. Une heure et demie, on chante les psaumes. Les enfants, les machins, et après, c'est la synarque. Tout ça, ça dure 2 heures. Ça se termine vers 10h30. À 11h moins le quart, tu arrives à t'échapper. Tu vas vite à la paroisse pour la messe du dimanche. Tu commences à 11h et termine à 11h40. Alors, c'est la rue d'Aru pour avoir quelque chose, pour mon esthétique, à esthético, comble esthétiquement parlant. C'est l'exercice du côté esthétique, et les Slaves ont besoin de la beauté, de la gloire, de ce sens de la cabale de Dieu. Et nous, pas tellement, en Occident, avec le siècle des Lumières peut-être, je ne sais pas, mais on a perdu ce sens. On dit, combien de fois on se dit, je n'arrive plus à prier, je ne ressens plus cette force de la présence de Dieu dans la prière. Mais on oublie toujours quand on dit ça, ça se voit à quelques-uns d'entre vous. On oublie qu'au moment où on éprouvait cette puissance, cette présence, cette grande présence de Dieu, et il a fallu qu'on fasse des efforts prodigieux pour s'intérioriser, on découvrait l'intériorité. Et ce qu'il faut faire à chaque fois, il faut rentrer de manière tonitruante, c'est ça, l'intérieur de sa méthode. Il faut être audacieux. Il faut rentrer à l'intérieur d'un monde qu'on ne connaît pas. Et ce monde, c'est nous, c'est ce monde intérieur. Cette évangélisation, on rentre dans l'inconnu, dans quelque chose de chaotique à l'intérieur de nous, et il faut qu'on rentre dedans. Et qu'en voyant ce monde chaotique qui n'est pas en prière, mais qui n'est pas illuminé par la gloire, resplendissant de Dieu. Alors, on est obligé d'être plus tenace dans l'intériorisation. Et on supplie, on continue. Et on va de plus en plus profond. Et on dit, Jésus, il vient. Enfin, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour convertir tous les peuples slaves? C'était deux pauvres types. Cela, c'est pour rentrer. Comment est-ce qu'on va faire pour aller au maximum de la ferveur? Alors, c'est ça l'évangélisation. On comprend qu'avant chaque messe, il faut faire un long voyage, on se prépare. Le Saint-Père, quand il a fait une lettre au prêtre, Ah, je dis ça, je ne me rappelle plus quelle année, parce que chaque année, c'est comme je le sais. Il écrit une lettre à tous les prêtres. Ah, il dit, on doit se préparer une demi-heure avant chaque Eucharistie, avant de la commencer. Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup de prêtres ici. D'abord, pas beaucoup qui l'ont lu. Deuxièmement, ceux qui l'ont lu. Mais c'est, ça fait rien, c'est pour une espèce d'importance. C'est pas ça. C'est que une demi-heure, ça fait penser à la demi-heure de l'Apocalypse. Alors j'entendis la septième trompette et il se fit un silence d'environ une demi-heure. C'est la raison, quoi. Il faut s'intérioriser terriblement la septième trompette. Parce que la troisième, quatrième, cinquième, sixième trompette, c'est bon, c'est terrible. Dans l'Apocalypse, c'est affreux, c'est une anarchie, c'est terrorisant, voilà. On est là, on est dans le chaos. Alors, il faut s'intérioriser, rentrer encore plus profondément. Il faut être ardent dans les profondeurs. Il faut avoir, si vous voulez, une manière, j'allais dire, à la béton. Ça s'appelle grand béton. Je ne sais pas si vous aimez béton. Trans, il faut se sentir. Il faut y mettre toutes les instrumentations. Parce qu'on est tout petit, on n'est rien du tout. Mais il faut absolument qu'on rentre dans tout ce monde de tragique, de drame, de chaos, d'anarchie, de noir, et supplier Jésus d'être là. Et à ce moment-là, ce grand chaos est remplacé par l'immensité, la grandeur de Dieu. Et quand on est dans cette grandeur de Dieu, à ce moment-là, voyez, je crois que c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est vivre de la paix. Quand vous rentrez dans une maison, il dit paix, cette maison. Jésus le dit bien, il dit bien, attention, quand vous évangélisez, n'allez pas dans une maison. Puis, une autre maison. Quand je suis à Ops, par exemple, il y a des gens qui disent, je dis, autant, ça fait 5 ans que vous êtes là, vous n'êtes jamais venu chez nous. Je dis, attention, je suis désolé, je n'ai pas encore été vidé de la première maison. Je n'ai pas été vidé de la première maison. Parce que quand on ouvre la maison, il faut rester ici. Symbolique, bien sûr, mais n'empêche que c'est très important. Hein? C'est pas vrai? Et c'est très très important. Mais ça veut dire quoi spirituellement? Moi je crois que spirituellement ça veut dire que la première maison qu'on doit évangéliser, c'est surtout nos profondeurs. Il faut dire paix à cette maison. Qu'est-ce que tu vas ça évangéliser du prochain? C'est d'être dans la paix, c'est de pénétrer avec ces deux apôtres ensemble, c'est-à-dire ton cœur et ton intelligence, c'est ta foi et ta charité, qui sont les deux apôtres, j'allais dire, de ton âme, et qui vont descendre, jusque dans la présence, j'allais dire, la demeurance profonde, c'est-à-dire de Dieu en toi, je crois que c'est ça. Alors, si tu vis ça, ça y est, l'évangélisation commence. Je crois que c'est ça, l'évangélisation. L'évangélisation ne consiste pas à ça. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est à la porte du Père Emmanuel, il y avait une petite, à l'Ermitage du Père Emmanuel, pour aller chez le Père Emmanuel, je savais qu'il fallait faire un sacré trajet. Moi je me rappelle, moi je venais de Paris et tout. J'avais 27 ans, c'était l'hiver. Mais je venais de Nice. Alors je vais aller chez le Père Emmanuel. Alors, je suis pris, j'étais en papier, stop, il faisait froid, je faisais mourir. Et pratiquement, on passe pas par les villes. On passe et pratiquement pas de ville de Nice, de Montmorin. C'est désert pour moi. Je passe par l'Aral, Et puis, il fallait marcher. Et à partir de Serres, c'est par là, on dit, c'est par là, monsieur. Alors, je commence à marcher à pied. les gens s'arrêtaient pas parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Tu marchais à pied au bout de 5 heures de marche. Tu commences à voir frire de ton âme. Alors je suis passé à la femme à pied. Et de l'autre côté. Je n'ai pas vu une seule maison sur 20 km. Et en plus, passer une montagne. Je suis arrivé dans la montagne, c'est le rocher, le machin. Qu'est-ce qu'ils allaient se mettre là? Qu'est-ce que tu fais? Et puis, on arrive dans les vallées de la Dodoul, avec la neige et tout. Et bon, on dit, le facteur passe par là, une voiture est PTP. Et la neige, c'est où? Ah ben, vous y allez. De la neige, que de la neige. J'ai mis 3 heures à le trouver. On m'a dit c'était là. Et à partir du moment où il m'a dit c'est là, je cherchais, j'ai mis 3 heures à trouver l'ermitage. Complètement paumé. Et vous ouvrez la porte. Et puis sur cette petite porte, on voit une petite carte comme ça. Ils ont fait la paix dans ton âme. Et les multitudes viendront à toi. Ça c'est de l'évangélisation. Fait appel à son âme. C'est une parole de Séraphine, de Séraph, ça. C'est à cela. C'est tout. Vous voyez comment en Occident, on n'a pas du tout, on a complètement perdu ce sens de ce que Jésus a donné au monde. C'est que l'évangélisation est quelque chose de très intérieur. Parce qu'on ne peut pas communiquer ce qu'on n'a pas. Alors, la communication, c'est la communication du trop-plein de notre contemplation. Alors, ce qu'on contemple, on donne la surabondance de notre contemplation. Sinon, c'est pour ça qu'on rentre dans une maison. Jusqu'à ce que ça déborde cette maison. Voilà. Et puis on y reste, tant que ça déborde, on continue. C'est vrai, si on est marié par exemple, il y a un sacrement, il y a un tabernacle, il y a la présence réelle, il y a le sacrement de mariage par exemple. Qu'est-ce que vous recherchez, messieurs 14 heures hein? Mon mari, c'est ses filles, mon mari m'empêche de vivre ma foi. Je ne peux pas aller à droite, à gauche. C'est incroyable. Mais bon, il y a un sacrement. Jésus est là. Elle est avec son mari. Jésus est là. C'est un sacrement, c'est comme un tabernacle. Il y a la présence sacramentelle réelle. Et mon mari m'empêche. Mais c'est pas vrai, il n'a rien compris du tout. C'est incroyable. Rien compris, rien. C'est béaba, quoi. C'est vrai, c'est présence réelle, le sacrement de mariage. Il ne faut pas l'oublier, quand même. Hein. Jésus est présent. Et il faut rentrer dans cette demeure, la demeure de Jésus, le cœur de Jésus. C'est pas la peine d'aller dans une autre demeure. Ah, si on vous y reçoit pas, allez dans une autre. Mais en général, Jésus, il ne bougeait pas dehors. Moi, je crois que c'est vrai, c'est important ça. Pour un ermite, c'est pareil, il n'a pas besoin d'aller dehors, il a le sacrement du baptême. Et je crois que c'est ça. Alors cet évangile là la moisson est abondante, les ouvriers priez. Et quand vous allez dans des maisons, allez deux par deux. Ça veut dire, allez-y, comme disent les pères de l'Église, allez avec beaucoup d'amour. Jésus ne voulait jamais que les apôtres partent seuls. Un apôtre seul, ça n'existe pas. Voyez. Ça n'existe pas, c'est pas normal. Faut être deux. Parce que l'apostolat, c'est à partir de l'amour. Il faut être deux. Et ça, ici, je voudrais dire une chose aussi un petit peu, peut-être qui est importante, je crois. C'est que souvent, souvent, si vous voulez, par exemple, soit dans une paroisse, dans une congrégation, un bruit, je ne sais pas quoi, qu'il y a quelqu'un qui, qui est catho, quoi. Alors, il commence à témoigner. Et puis, vous, vous êtes catho aussi, je ne sais pas quoi. Ou un époux, une épouse, par exemple. Bon, je sais pas. Là, quelquefois, ça arrive que vous mettez à... Parce qu'il faut le faire, parce que ça vous est demandé, on vous demande. Mais là, vous essayez d'expliquer la prière, Dieu, l'importance, qu'est-ce qui sanctifie au Jésus, le salut, tout ça. Et puis d'un seul coup, il y a justement celui qui partage votre foi, qui dit, mais non, c'est pas ça. Parce que, vous voyez, ça arrive, ça, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que quand il y en a un qui témoigne, il faut que, si vous êtes à côté, il ne faut pas essayer de compléter ce qu'il dit en corrigeant. C'est lamentable de faire ça. C'est lamentable. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer à l'intérieur de son témoignage et le fortifier en priant pour lui. Pendant qu'il témoigne, il faut être deux grands témoignes. Je me rappelle que quand on était... quand j'étais à Paris, à cette époque-là, les chrétiens n'évangélisaient pas dans les rues. Maintenant, il paraît qu'ils sont 5 ou 6 000 à évangéliser dans les rues catholiques, au minimum 2 heures par semaine, d'après leur statut et leurs engagements. Mais à mon époque, j'étais le premier. Et on était le premier groupe d'évangélisation dans les rues, en fait, à Paris. Dans le quartier latin, les Champs-Élysées, etc. C'était pas marrant, on appelait ça les commandos du Saint-Esprit. Et alors, mais c'était très intéressant parce que on avait repéré ça, on avait repéré qu'il faut être deux. Ça, on a très bien repéré, il faut qu'il y en ait un qui soit là. Et qu'il y en a un qui parle, l'autre, il cherche pas à dire oh là là, il a été maladroit en disant ça, moi j'aurais pas dit ça, surtout. Alors, il faut qu'il prenne pendant que tu lui parles. Et si la personne à qui on parle, de toute façon, comment on va interroge l'autre, tout te regarde, si on veut, je suis tout à fait d'accord. Et puis toi-même, tu ajoutes, tu vas dans le même sens, et du coup, celui qui est à côté de toi, qui que toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans des situations concrètes, on ne se rend pas compte de ça. On se rend pas compte que même si. Je pense que si je disais mon témoignage, c'est le moment de. On est deux à témoigner, donc moi je vais ajouter mon témoignage, là ce sera fort, il a préparé le terrain, et moi je donne le dernier coup. Ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. C'est ça, tu es seul à ce moment-là, vous n'êtes pas deux. Même si tu penses que ce que tu vas dire est mieux du point de vue de la perfection, de la puissance, de la vérité, tout ce que tu veux, comme ça, tu peux rectifier, tu casses tout, et il n'y aura pas de conversion. Non, même si ce que nous avons dit est moins parfait, s'il y a eu l'amour, Dieu donne une grâce de conversion à celui qui est là. Parce que deux frères, comme les colonnes de l'église lorsqu'ils s'aiment. C'est par l'amour qu'on évangélise. Et c'est Dieu qui convertit. À condition qu'on vive et qu'on rentre dans la première demeure. Et la première demeure, vous rentrez dedans et vous dites paix à cette demeure. C'est-à-dire vous faites unité avec elle. La paix, c'est l'unité. Oui, dans le mariage, c'est clair, hein. On évangélise ses enfants. Hein. Dans le mariage, c'est ça. Eh bien, si tu ne fais pas l'unité dans l'amour avec la foi de ton conjoint, ça risque rien, tes enfants n'auront jamais la foi. Et si un jour ils perdent la foi, 15 ans, 16 ans, ce sera à cause de toi. Tu dois rentrer dans une maison, c'est dans cette maison, la première, tu dois y demeurer, tu dois y rester. Et quand on est marié, première maison, c'est celle de ton conjoint. Et tu te barres. Et tu fais paix avec cette maison. Et tu vis cette paix. La paix, c'est pas. C'est la paix, la chaleur, c'est désigne l'unité totale. L'unité dans la lumière, dans l'intériorité de la lumière. Quand je rentre à l'intérieur de mon conjoint et je vis cette unité à l'intérieur de sa lumière, par l'amour. Moment-là, oui. Et il y a une communication de la foi qui se fait, une communication de la grâce qui se fait. C'est vrai. C'est des choses tout simples, on n'y pense pas souvent, mais c'est très simple. Hein? Quand j'assiste à une messe, c'est la même chose, si vous voulez. Nous assistons à la messe, ça va très bien. Je peux être dans la position. Je peux être dans une position attentive en disant oh, c'est fait. Oh. Oh. Oh là là, c'est pas vrai, mais il y a vraiment des problèmes. Hein, mais c'est pas vrai, mais. C'est pas possible. Et puis tu sors de la messe, enfin. Enfin, mais non. Quand le prêtre monte à l'autel, c'est Dieu qui monte à l'autel. Qu'est-ce que tu regardes les apparences et tu t'en feras pas, non. Tu rentres à l'intérieur, tu fais appel avec le prêtre. Là, la demeure, hein, c'est Jésus. Hein. Quand c'est une messe, la demeure, c'est Jésus qui opère dans sa présence. Et c'est une présence sacramentelle. Et la présence opérante, hein, c'est du prêtre. Hein. Je suis désolé. Et donc, il faut rentrer dans cette demeure et ne pas la quitter. La présence réelle, personnelle, efficace, féconde, vivante, sacerdotale, victimale, du Christ. À l'intérieur de la maison. Peut-être délabré, mais ça on s'en fiche complètement, puisqu'on rentre dedans. Et on rentre dans le pouvoir sacerdotal du Christ qui transmet en ce temps et en ce lieu toutes les gloires de Dieu. Je me conjoins à la source. C'est tout un. Et la Saint-Cyrille et Saint-Méthode, ça me paraît très automatique parce qu'ils ont fait des choses vraiment toutes simples. Voilà. Alors, vivons ça et n'oublions jamais ça. Il faut vivre très intérieurement. Toutes nos oraisons, très, 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 très intérieurement. Très intérieurement, avec une délicatesse infinie, nos rapports avec ceux que tu as mis proche de nous. Trinité. Déposons tout souci du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia.